Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous emmène à Tournus. Nous y retrouverons nombre de représentants associatifs, de collectivités, du monde de la culture et principalement les responsables de plusieurs itinéraires culturels du Conseil de l'Europe. C'est une chance unique, car ces réunions européennes très rares ont lieu dans notre région. Je souhaite vous faire participer à cette rencontre qui s'est construite avec le soutien du ministère des Affaires culturelles. Cette assemblée à Tournus a pour but, en valorisant les patrimoines dont nous sommes comptables, de mettre en commun les connaissances et les compétences de chaque itinéraire culturel, mais aussi par la participation des associations, des collectivités, du monde culturel et touristique, de pouvoir valoriser le patrimoine de notre région par la création de nouveaux itinéraires. Parmi l'ensemble de ces représentants des différentes routes et chemins, nous allons proposer à trois d'entre eux de pouvoir s'exprimer devant notre micro. Je propose maintenant de retrouver Jean Klinkert de la Via Habsbourg. Bonjour Jean.
Bonjour.
Pouvez-vous nous présenter la Via Habsbourg? En quoi cet itinéraire est-il important pour le patrimoine, la culture, l'histoire et le tourisme?
Voilà, alors la Via Habsbourg a été créée sous la forme d'un itinéraire culturel européen en 2014 avec une certification du Conseil de l'Europe et s'appuie sur trois bases angulaires, à savoir le tourisme culturel, l'éducation, la recherche, la culture et aussi la citoyenneté européenne. Nous réunissons une centaine d'adhérents, c'est-à-dire des musées, des châteaux, des villes, des villages, des lieux de culture aussi. Et nous en faisons une promotion à la fois culturelle et patrimoniale de façon trilingue, en français, en allemand et en anglais, sous la forme d'un guide sur les 700 km d'itinéraire entre, pour faire simple, Nancy en relation avec François-Étienne de Lorraine, l'Alsace, le lac de Constance, le nord-ouest de la Suisse. Nous passons bien sûr par Innsbruck pour aboutir à Vienne. Ce sont donc quatre pays que nous traversons, la France, la Suisse, l'Allemagne et l'Autriche.
Vous parlez de la France, mais je n'ai pas perçu votre proposition d'y intégrer la Bourgogne.
Alors c'est une très bonne question, parce qu'en fait, jusqu'en 2018, nous nous étions limités à la période historique allant de Rodolphe Ier à Marie-Thérèse. Et historiquement, il y a deux branches dans la dynastie des Habsbourg, à savoir la branche autrichienne et alémanique et la branche espagnole s'appuyant sur Charles Quint qui constitue en fait le carrefour de cette famille. Nous avons décidé en 2018 de nous ouvrir aussi à la branche espagnole et c'est ainsi que la Bourgogne, avec des sites très connus, serait les bienvenus dans ce dispositif.
Georges de Habsbourg est venu à l'occasion de la restauration de la chartreuse de Champmol. Quelle place il peut tenir dans la Via Habsbourg?
J'avais créé cet itinéraire culturel européen avec l'appui et l'accord renouvelé d'Otto de Habsbourg, un personnage extraordinaire et pour moi un monument du XXe siècle. Je l'ai en image accompagnant le cortège funèbre de François-Joseph en 1916 à Vienne et le voir en 2014 présent au lancement de l'itinéraire culturel européen, c'était un grand moment. Et donc j'ai eu l'occasion de rencontrer Otto de Habsbourg lorsqu'il était entre autres député européen, donc à Strasbourg, au Conseil de l'Europe, puisqu'il était député bavarois, et il a toujours soutenu cette mise en œuvre. Et bien sûr, aujourd'hui, Karl de Habsbourg a recertifié, puisque c'est le chef de famille, l'attachement de la famille à cet itinéraire culturel, Et de fait, Georges de Habsbourg est évidemment le bienvenu.
Eh bien, cher Jean, vous nous faites rêver devant ces noms prestigieux. Et je peux vous assurer, pour avoir rencontré Georges de Habsbourg, que c'est un homme cultivé, agréable et tout à fait de notre siècle. Merci de votre intervention et je vous souhaite pleine réussite dans la suite de vos activités. Merci à vous.
Et bienvenue au Bourguignon.
Merci, ce sera transmis.
Nous venons de jeter un regard important dans l'histoire médiévale de la Bourgogne-Franche-Comté, puisque les Habsbourg sont la continuité de notre dernier duc de Bourgogne. Mais poursuivons nos rencontres, si vous le voulez bien. Nous allons maintenant questionner Florence Haché-Leroy sur la route du patrimoine industriel. Bonjour Florence. Qui êtes-vous et pourquoi la route du patrimoine industriel ?
Bonjour, bah écoutez, c'est une association qui existe depuis 1999. Moi que j'ai rencontré très tôt, puisque je suis universitaire, je suis maîtresse de conférences et j'enseigne le patrimoine industriel à mes étudiants. Et je préside également le CILAC, qui est une association nationale qui promeut le patrimoine industriel. Alors, ERI, c'est donc les routes européennes du patrimoine industriel, Industrial Route of Industrial Heritage, a l'avantage en fait d'être appuyé sur beaucoup de secteurs industriels et pas d'être mono-industrie. C'est une ouverture qui me semble plus intéressante. Et puis, de fait, elle permet de traverser toute l'Europe. Donc ERI, c'est aujourd'hui 27 pays, 300 membres et puis plus de 2200 sites qui sont répertoriés sur l'ensemble de l'Europe. Donc on est sur un sujet beaucoup plus vaste qui permet à la fois de parler du charbon, de l'eau, du sel, des musées de sites, des musées d'entreprises, enfin vraiment une approche extrêmement riche du patrimoine industriel.
Et quelle est la période sur laquelle vous œuvrez ?
Alors, traditionnellement, on est plutôt sur la période 18, 19, 20. Mais le patrimoine industriel, c'est un patrimoine technique, en fait. Et tout objet technique utilisé par l'homme entre dans le champ du patrimoine technique et du patrimoine industriel. À l'échelle de l'UNESCO, par exemple, un gisement de silex relève du patrimoine industriel. Nous, là, on se concentre vraiment sur cette période-là, mais on n'exclut pas pour autant les sites médiévaux, par exemple. Vous avez des très beaux sites d'adduction d'eau qui remontent à la période médiévale et qui sont très bien conservés et bien évidemment qui sont inscrits pour nous dans le champ du patrimoine industriel.
Une question que j'aurais dû vous poser dès le départ, mais pour vous, industriel, qu'est-ce que c'est ?
Alors, l'industrie, c'est d'abord et avant tout l'art de fabriquer. Donc, c'est bien pour ça qu'on commence très tôt. C'est à partir du moment où vous fabriquez un objet, vous êtes dans une logique industrielle, que vous la fabriquez en série. Ceci étant, la frontière entre l'artisanat et l'industrie est extrêmement ténue, puisque on voit, dès la préhistoire, les fabricants de silex sont déjà dans une logique d'organisation du travail. Et on retrouve ça, en fait, à toutes les époques. Donc, de fait, le travail artisanal, à partir du moment où on reproduit le même geste pour faire les mêmes objets, même s'ils ne sont pas strictement identiques, relèvent effectivement du patrimoine industriel.
Et vous intégrez également ce qui est énergie, ce qui est production de masse, houillère, etc. Parce que c'est extrêmement vaste. Et comment arrivez-vous à vous limiter ?
Alors, c'est extrêmement vaste, effectivement. Alors, oui, tout ce qui est, en fait, réseau, le réseau d'eau, d'énergie, l'électricité, etc., le gaz font partie du patrimoine industriel, et puis, les routes, le transport. Et en fait, on ne se limite pas, tout simplement, on se fait plaisir. J'exagère, mais effectivement, on définit les champs, c'est-à-dire qu'il y a le champ du transport, il y a le transport qui peut être tout ce qui est à roues, sur des rails, etc., et puis le transport d'énergie, qui n'est pas tout à fait le même. Et puis, ensuite, des secteurs, les métaux, le verre, le textile, que l'on peut après déployer par usage. Donc ça peut être l'alimentation, ça peut être la mode. Vous voyez par exemple la haute couture, on est typiquement dans du patrimoine industriel, même si les musées haute couture vous diront non.
Nous sommes aujourd'hui à Tournus et nous participons avec vous à une rencontre des réseaux culturels que l'on appelle itinéraire culturel du Conseil de l'Europe. Nous rencontrons Florence Haché-Leroy, représentant la route européenne du patrimoine industriel.
Mais pour bien comprendre, quel est le niveau auquel vous vous situez ? C'est l'usine, c'est le matériel de production, c'est la chaîne, c'est la centrale nucléaire. Ce que vous dites me fait penser au lavoir qui existe ici à côté, enfin pas très loin en tout cas, à Montceau-les-Mines. Il y a un immense lavoir qui était un lavoir à charbon. Est-ce que le lavoir peut faire partie de votre réflexion, parce que c'est quand même un gros morceau.
Alors, le lavoir à charbon de Montceau-les-Mines a été classé monument historique, donc ça règle le problème, c'est du patrimoine, il est classé. Alors, il a été déclassé il n'y a pas très longtemps, mais de fait, du point de vue du ministère de la Culture, c'est un patrimoine national. C'est la même chose avec les terris. Les terris du Nord-Pas-de-Calais ont été protégés au titre des monuments historiques et classés par l'UNESCO. Donc, ils font patrimoine. Qu'est-ce qu'un terril ? C'est un gros tas de déchets. Est-ce qu'il y a 20 ans, on vous aurait dit un tas de déchets et des monuments historiques ? Non, aujourd'hui, oui. Donc en fait, le patrimoine, c'est une construction sociale. C'est nous, collectivement, qui décidons ce qui fait sens pour la communauté du point de vue de son histoire et de sa mémoire. Donc effectivement, c'est très large. J'étais intervenue il y a quelque temps auprès d'une assemblée justement qui s'occupait du nucléaire et je leur avais dit, pour moi je pense que d'ici 20 ou 30 ans, le patrimoine nucléaire sera classé à titre de l'UNESCO. Alors ça fait réagir la salle, mais en fait, la centrale nucléaire c'est un très bel objet architectural et technique. Il est représentatif d'une technologie mondiale et qui impacte l'ensemble de la planète. Donc de fait, il aurait toute sa place dans le patrimoine de l'UNESCO. Et ce regard porté, alors aujourd'hui la centrale nucléaire ne fait pas sens pour la communauté du point de vue patrimonial, en tout cas pas largement, il y a quand même des gens qui comme moi considèrent que ça pourra être du patrimoine industriel.
Et alors comment peut-on adhérer à votre association ?
Alors, c'est très simple. Si vous voulez y adhérer à titre individuel, vous allez sur le site de ERI, donc c'est erih.net. La cotisation est à 25 euros. Si vous êtes un site, là, il y a deux catégories de sites. ERI a la particularité de distinguer des points d'ancrage, qui sont des sites de référence à la fois dans l'histoire industrielle de l'Europe et puis par les prestations qu'ils offrent au public et qui permettent d'être assurés de faire une visite réussie. Ces points d'ancrage-là, il y en a une centaine à travers l'Europe et est de 500 euros. Et puis les sites individuels qui, eux, font partie des RIB, ne payent qu'une cotisation de 100 euros. Et je reviens à la question de l'échelle, parce que vous parlez effectivement, le patrimoine industriel, c'est autant un dé à coudre qu'une centrale nucléaire et qu'un paysage. Et ça, on suit l'évolution de l'UNESCO, le paysage industriel, c'est un paysage culturel, et on appréhende aussi, en fait, le patrimoine industriel à cette échelle-là. Le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, il a été classé à l'UNESCO en tant que paysage culturel évolutif. Donc ça vous dit bien la grandeur de l'échelle, mais aussi la richesse, bien sûr, du patrimoine industriel.
Merci Florence. Grâce à vous, on verra notre passé industriel d'une façon différente. Une autre route se présente aujourd'hui, la route d'Artagnan. Elle évoque un célèbre mousquetaire, un remarquable bretteur. Mais pourquoi lui attribuer une route ? Y a-t-il tant de lieux qui lui seraient attachés ? Pour avoir une réponse, nous allons questionner Alain Libéros, président fondateur de la route européenne d'Artagnan. Cher président, cher Alain, bonjour. Mais que vient faire d'Artagnan dans ce monde du patrimoine et de la culture ?
Bonjour, cher Gérard, merci pour votre invitation. Alors, peut-être en deux mots, la route européenne d'Artagnan, c'est partie de l'idée que d'Artagnan est connu dans le monde entier, avec ses mousquetaires, grâce à Alexandre Dumas. J'ai participé à ces travaux au niveau européen sur la mise en place des itinéraires culturels européens. Et j'ai pensé que la culture mousquetaire pourrait être un vecteur de connaissance du patrimoine sur l'ensemble de l'itinéraire parcouru par D'Artagnan et ses mousquetaires au XVIIe siècle. Patrimoine, ça veut dire tout ce que nous considérons comme les hauts lieux historiques, littéraires et équestres que nous avons identifiés. Il y en a 172 sur 6 pays et 15 régions.
Sur 6 pays, vous pouvez décrire un peu ?
En Allemagne, à partir de Brühl, aux Pays-Bas, à Maastricht, où D'Artagnan a été tué, au moment du siège de Maastricht. Ensuite, en France, où il y en a un grand nombre, je dirais 85% de l'itinéraire est répertorié en France. Et en Italie, et aussi en Espagne. Et deux itinéraires qui passent, c'est l'itinéraire de Madame D'Artagnan et de Pinerolo, celui qui rejoint Nantes à l'Italie.
Et qu'apporte cette route à ceux qui la fréquentent, à ceux qui sont adhérents ?
Alors, les adhérents, je dirais, il y a plusieurs types d'adhérents. D'abord, bien sûr, il y a les collectivités publiques qui ont intérêt, bien sûr, à développer aussi l'itinérance douce dans toutes ses dimensions. C'est un produit touristique, je dirais, classique. On se promène à cheval, à pied, à vélo, avec des retombées économiques sur les territoires. Deuxième élément, sur le volet culturel, évidemment, on met en valeur tous les hauts lieux historiques de la route, c'est-à-dire ben, Champlecy, Sainte-Croix, Dijon, le château de Bussy-Rébutin dont on a parlé tout à l'heure avec l'administrateur, etc. etc. Donc ce sont, il y a des éléments de valorisation des territoires qui sont petit à petit travaillés avec les territoires. Je mets en place actuellement des comités de pilotage au niveau de chaque département, avec tous les partenaires concernés, les associations, les collectivités publiques, les fédérations équestres, les fédérations pédestres, etc., etc., de manière à en faire un produit touristique et culturel de qualité et qui va bien porter, je dirais, les territoires et les zones rurales à l'échelle européenne.
Et alors, pratiquement, comment ça se passe ?
Alors, c'est le modèle de Saint-Jacques-de-Compostelle. Une fois que vous avez posé l'offre, je dirais, toute la logistique nécessaire, c'est-à-dire les itinéraires de qualité, le balisage, les hébergements pour les cavaliers. Ça c'est... Et ce sont des cavaliers, soit qui ont leurs chevaux, soit qui louent des chevaux, hein, et qui se font accompagner par des accompagnateurs équestres. Je dirais que bon, la grande majorité des gens qui souhaitent monter à cheval pourront le faire. C'est du tourisme pour tous. Et on peut faire au pas, on peut faire tranquillement une étape ou deux étapes. C'est en gros des étapes de 20 à 25 km sur la route européenne d'Artagnan, comme on prend son sac à dos sur Saint-Jacques-de-Compostelle.
Une question simple. Et si je veux participer, comment faire ?
Alors, soit vous venez nous rencontrer et vous souhaitez participer, et vous devenez adhérent, alors adhérent individuel, adhérent associatif, adhérent en collectivité publique, donc tout le monde, c'est ouvert à tout le monde, bien sûr. Ou alors, vous voulez tout simplement bénéficier des outils que nous avons mis en place, vous allez sur notre site internet, Route d'Artagnan, grosso modo, vous tapez Route européenne d'Artagnan, ça viendra de suite sur le site. Et donc là, vous verrez tout ce que nous pouvons mettre en place. Il y a un volet pédagogique pour les jeunes, on met en place une école de jeunes hommes scolaires européens. Ça veut dire pour les communes, pour les départements au niveau des collèges. Il y a un volet écotouristique, il y a un volet donc, patrimoine équestre, il y a un volet social. On voudrait que les enfants, les difficultés, les familles à revenus modestes, etc. puissent venir sur la route européenne d'Artagnan. En fait, tout ça, ça se construit avec les collectivités territoriales. Et c'est ce que nous sommes en train de faire.
Merci Alain. Je souhaite pleine réussite à votre action. Cette émission se termine. Je souhaite qu'elle vous a apporté une autre vision des actions indispensables à la compréhension au maintien du patrimoine au cœur de notre société. N'hésitez pas à compléter ces informations en allant sur le site du ministère de la Culture, ministère de la Culture, ICCE. Vous pourrez par ailleurs trouver quelques éléments concernant cette réunion qui sera mise sur notre site patenvpfc.org. Avant de rendre l'antenne, il me faut remercier le CEP, Centre d'études des patrimoines, ainsi que l'itinéraire Transromanica, qui a assuré l'entière organisation de cette très intéressante rencontre. C'est le MAG se termine, vous avez maintenant rendez-vous avec votre journal.